Alors, I would call, if he's here, Monsieur Al Hogg. Come forward, sir, to the mic, or to the mic. Welcome.
Thank you very much, and thanks for taking my question. So, good afternoon. My name's Al Hogg. I'm a member of the RVH Patient Committee. I also work as a wayfinding volunteer at the Royal Vic twice a week. And without a doubt, the most frequently discussed issue amongst the group of volunteers that I work with revolves around the availability, you guessed it, of wheelchairs for those patients in need coming to the hospital for an appointment. It's clear that there's not enough. It's clear that there's either not enough chairs or the chairs are not returned on a timely basis as we run out almost every day by mid-morning. I'm told there's one staffer tasked with retrieving the chairs, but the problem persists, and so we, the volunteers, are forced to scour the hospital for any extra chairs to meet the demand. So I kind of have three questions on this. I could have a bunch of them, but I'll leave you with three. What is, per the board, an adequate number of wheelchairs required by an institution of the Glen site size to serve this need? Two, if more chairs are obtained by the hospital, how can we be sure that this greater number will be managed with more effectiveness rather than having volunteers run around and look for them? And number three, which service at the MUHC is responsible for the acquisition and management of the wheelchairs? And so I put a little note at the end there. By the way, the patients committee, the RVH patients committee, and the volunteers would be happy to play a role in finding any solutions to these problems.
Thank you very much. That was one of the first things that were brought to my attention by the volunteers when I came last May, beginning of June. And it's a complicated question. I don't know if we do know the adequate number of chairs that is needed, if benchmark exists. I'm not sure it would be fair to ask Monsieur Le Gris this question since he's been with us for 2 weeks. But I imagine that this was part of the planning. Martin, would you know anything about this or?
So as a physiotherapist who worked for 14 years with people with reduced mobility, the issue of wheelchairs in the hospital environment is something that I've heard for a very long time. We lose track of the chairs. Chairs are brought near cars, and then patients leave, and the chairs are beside the cars in the parking, not where they are needed. So we need a better way to track where the chairs are, the chairs that we have are, and to bring them back where the volunteers and the patients will need them. So that's something that we could bring back to the board and to the users committee.
Yeah, we could bring you the exact answer to question number one.
And
which service is responsible? Is it transport?
Yes, it's logistics.
It's logistics and transport.
Yes.
We've had discussions with them already to put, chips on the chairs to be able to find them. Apparently, it's not easy to do. But we're looking into it, and that's one of the dossiers I will give out to. Transport is under also Paul Armat, logistics. Would you please give us your coordinates, your phone number or something, so we could call you back with the information? But for sure, answer to question three is logistics and transport. One, I don't know if we know the number, and we have to find a better way to find our chairs. Very often when I leave at night, let's say 6-7 o'clock, there will be many chairs at the P2 level. Yes. People drop the chairs there in the parking or right beside the elevators. So I take the chairs back to the ground floor. I guess if everyone did it, it would be easier. But at the same time, it's not a time that's as busy. But I know it's been a persistent irritant, especially for the volunteers. So thank you for bringing us this concern to us, Monsieur Hogg. And we'll get back to you. Okay, for sure.
Like I said, we're happy to like...
Oh, yeah. I'm sure you have suggestions. Where are the best places to store the chairs, to leave them? We'll get in touch with you and with the volunteers and the RVH Patients Committee.
Thanks.
And thank you for being a volunteer. The MUHC would not survive the way as well as it does without the support of this big volunteer group. So thank you for that.
My pleasure. If I could speak for most of them, I'd say they would say the same thing. They like what they do.
Excellent.
And we're really happy to see you with your blue coats when someone is asking for directions.
Often a board member.
Okay. Okay, the next question, c'est les José et Sandra. Je m'excuse, José, je n'ai pas votre nom de famille sur la feuille. Je ne veux pas vous infantiliser en vous appelant juste par votre prénom. Madame Sandra, je sais qu'elle s'appelle Étienne, son nom de famille. Ça, je sais ça. José, rappelez-moi votre nom de famille.
Fréchette, pour être une de vos ex-employées du CIUS Nord de Lille.
J'en avais juste 10 000. Je les connaissais plus. Mais je les connaissais plus par leur prénom que par leur nom, souvent. José, je le sais, c'est Fréchette dont je ne me souvenais pas.
Bon. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir le conseil d'administration. Je vais commencer par ma question, puis après, je vais vous expliquer. Donc, que comptez-vous faire pour améliorer le service aux patients dans le contexte actuel OptiLab? En effet, depuis l'annonce du projet OptiLab, la PTS-USM avait communiqué au CUSM les inquiétudes en lien avec tout ce projet-là. Malheureusement, on est obligé de constater aujourd'hui que nos inquiétudes se sont avérées fondées. On nous indique qu'il y a un manque de personnel à travers les laboratoires au CUSM, notamment au Lakeshore. On peut vous assurer qu'il y a des gens qui sont à la maison qui attendent l'appel pour aller travailler. Donc, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'il y a des analyses qui ne se font pas. Et il y en a qui peuvent être urgentes et donc doivent attendre parce qu'on libère des bancs, parce qu'il y a un manque de personnel. Il y a le quai de réception de marchandises. Ça fait 2 ans qu'on en parle, qu'il y a des inquiétudes sur la qualité de la réception des marchandises. Et on nous avait dit que c'était temporaire. On n'a pas vu d'amélioration ou de projet de construction, quoi que ce soit, là, pour le quai de marchandises. Donc, les analyses arrivent toujours sur ce quai. Finalement, nous déplorons aussi le manque de communication entre l'administration, ceux qui s'occupent de OptiLab et le syndicat. On pourrait parfois trouver ensemble des solutions. Malheureusement, on est toujours devant le fait accompli. Donc, on nous annonce, ce sont nos membres qui nous annoncent des changements, des abolitions ou quoi que ce soit. Et on ne peut pas s'asseoir, on ne peut pas communiquer directement avec les responsables de OptiLab. Donc, devant tous les changements qui sont annoncés. Donc, comment pouvons-nous développer une collaboration patronale syndicale si on ne peut pas s'asseoir et on ne peut pas avoir une communication fluide entre les deux parties? Alors, merci.
OK. OptiLab, vous savez, ce n'était pas un projet du CUSUM, puis ce n'était pas un projet du CHUM ou du CHUC ou des autres centres qui hébergent les GRAP. Vous savez, c'est un projet gouvernemental qui s'est réalisé dans un temps, je vais dire, éclair. Dont on soupèse aujourd'hui certaines conséquences qui n'avaient pas été prévues. Okay. Est-ce qu'il y avait une nécessité de rationaliser les laboratoires au Québec, d'arrêter l'achat accéléré de machines de plus en plus puissantes par tous les centres hospitaliers? Est-ce qu'il y avait une nécessité de rationaliser le travail pour faire face à la pénurie de personnel qu'il y a chez les techniciens de laboratoire? Oui. Est-ce que OptiLab, c'est la réponse la plus appropriée à ces problèmes-là? Peut-être. Peut-être pas. Je ne sais pas. Mais ça a été imposé au CUSUM comme ça a été imposé aux autres. Moi, j'ai vécu 2 périodes d'OptiLab. J'ai vécu une période de l'autre côté de la montagne, dans votre ancienne institution, où je ne peux pas dire que ça a été vraiment facile. Et ce n'est pas facile encore aujourd'hui. Quand je suis arrivé, la semaine passée, le ministre Carman a annoncé que Sainte-Justine sortait de la grappe OptiLab du CHUM, vous êtes déjà au courant. Quand je suis arrivé ici, je vous avoue que pour moi, ça a été quand même une surprise agréable de voir que ça, au moins les gens se parlaient, que les médecins se parlaient, que les laboratoires se parlaient, puis que le climat était somme toute pas si mal. Je pense que vous avez eu la chance d'aller au party des fêtes des employés. Je pense que le climat est quand même pas mal. Je dis pas qu'il n'y a pas de tension puis il n'y a pas de choses à améliorer, mais je pense qu'au moins qu'on est en discussion puis on a des gens qui s'en occupent. Puis du côté du CHUM, je veux pas m'avancer là-dessus, mais c'est pas du tout la même situation. Je pense qu'il y a des difficultés avec OptiLab, c'est normal. C'est un jeune bébé qui n'a pas encore 2 ans. C'est un énorme projet de centraliser tous les laboratoires. Bientôt, je vais rencontrer les chefs médicaux de toutes les spécialités. Il y en a qui viennent du CUSUM, il y en a qui viennent du Jewish, il y en a qui viennent du Lakeshore. On couvre aussi la région de l'Abitibi. Alors, on va rencontrer ces gens-là bientôt pour les entendre, voir les difficultés. Je vais aussi rencontrer mes collègues PDG. On a créé un comité stratégique d'OptiLab pour voir comment ça va dans chacun des milieux, quels sont les problèmes qu'on doit adresser. Puis bien entendu, il va falloir parler à nos employés aussi. Fait que là, moi, je suis pris des notes. À l'effet que vous dites que la communication n'est pas facile. Je comprends que c'est un gros projet et que nos cadres sont très occupés dans OptiLab. C'est des gens qui sont très dévoués, mais en même temps, c'est des gens qui sont très occupés. Et on a une nouvelle directrice de ressources humaines, Mme Dubé, que vous avez eu la chance tantôt de rencontrer ou je l'ai présentée. Et puis, je vais lui demander de porter une attention particulière à ce que vous nous avez apporté aujourd'hui en termes de communication, puis d'essayer de collaborer ensemble pour trouver des solutions aux problèmes que vous avez soulevés, dans un contexte qui n'a pas été désiré par personne, sauf par les quelques personnes qui ont pris les décisions au Québec. Voilà. Madame Étienne.
Bonjour, Sandra Étienne.
Bonjour, Madame Étienne.
Pour la PTS. Merci d'avoir accepté ma question. Ma question, je vais commencer par celle-là, c'est est-ce que le CUSM compte continuer à offrir des services au centre de prélèvement sur le site Glenn? Oui, je vais juste...
OK, allez-y, mais moi, je ne connais pas la réponse à cette question-là. Okay, on a des gens en arrière qui vont être capables de répondre.
OK, excellent.
Continuez votre question.
Donc, on doit se souvenir qu'on a retiré les technologistes médicaux sur les étages, prétextant que cela allait diminuer le temps d'attente et parce qu'on avait besoin d'eux dans les laboratoires. Suite à cela, il y a eu 16 abolitions de postes à temps partiel. Durant les deux dernières semaines, on a vu passer l'abolition d'un poste à temps complet par semaine. Pendant ces deux dernières semaines, ce sont nos membres qui nous ont informés sur ces changements, qui ont eu lieu la semaine dernière et ceux qui sont en cours. À la lumière de ces nouvelles informations, la PTS, nous avons questionné la gestion des laboratoires sur le plan de restructuration pour le centre de prélèvement au Glenn, qui semble se mettre en place à l'insu de nos membres et du syndicat qui les représente. D'ailleurs, le syndicat a dénoncé le fait qu'une fois encore, ce sont nos membres qui nous informent à propos des changements qui se passent sur le terrain. Et nous avons questionné la gestion des laboratoires à ce sujet, à savoir c'est quoi le plan qui est en train de se dessiner. Et jusqu'à ce jour, nous sommes sans réponse. Alors, par conséquent, étant dans le néant sur le plan de restructuration qui se passe de toute évidence au centre de prélèvement Glenn, et voyant les abolitions passer, ça amène la question, est-ce que le CUSM compte continuer à offrir des services de prélèvement au site Glenn? Merci.
OK. Alors, je vais demander peut-être à M. Caprio, qui est le cadre responsable de OptiLab, de répondre à votre question. Est-ce qu'on compte continuer à offrir des services de prélèvement au site Glenn?
La réponse est oui, absolument. On va toujours avoir besoin dans tous nos sites d'avoir des centres de prélèvement pour les patients qui se présentent dans l'hôpital, qui ont des rendez-vous dans l'hôpital ou bien dans une clinique. En ce qui concerne la décision pour arrêter de faire les prélèvements sur les unités de soins, c'est une cause directe de la pénurie de technologistes qu'on voit dans la province et même à partir de tout le pays. OK? Alors, le plan, c'était vraiment de prendre les technologistes qui étaient sur les unités de soins puis de les concentrer dans les centres de prélèvement. Je peux vous dire que nous sommes en train de suivre les conséquences, les impacts qui sont positifs. Un exemple en termes de turnaround time de patient experience, on appelle ça. Au Glenn, on a vu les chiffres aller de 43 minutes par patient. À 33 minutes, et aussi sur un autre site de Sainte Marie, on a fait la même chose. On a vu une diminution d'attente dans les centres de prélèvement. Aussi important à mentionner, c'est que je reçois des lettres des patients aux semaines, des lettres de félicitations que le temps d'attente a diminué, des félicitations. Alors, c'est sûr, en termes d'impact, jusqu'à le moment, c'est positif. Mais la réponse, oui, toujours on va avoir besoin d'une centre de prélèvement dans tous les sites, dans les hôpitaux.
OK, parfait. Merci beaucoup. Alors, on va quand même continuer le dialogue, garder la communication ouverte avec nos partenaires syndicaux dans ce dossier-là. Et puis, on va essayer de vous tenir informés le plus possible de ce qui se passe et de garder les lignes de communication ouvertes. Alors, on vous remercie pour vos questions.